au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à Mario Langlois rencontre. Intronisé en novembre dernier au Panthéon des sports du Québec, mon invité a remporté pas moins de 11 médailles comme athlète paralympique en fauteuil roulant lors de 4 éditions différentes des Jeux paralympiques à travers le monde. Tout un parcours de vie. Mon invité, et je vous le présente avec grand plaisir, il est installé dans nos studios à Québec, nul autre que celui qui aujourd'hui œuvre maintenant comme vice-président avec la compagnie La Capitale et qui est aussi un conférencier très recherché partout au Québec et ailleurs, nul autre que Dean Bergeron. Bonjour Dean!
Bonjour Mario!
Comment vas-tu?
Ça va super bien.
Les années filent à toute allure, t'approches tranquillement de la cinquantaine, Dean, et c'était un bon moment, je trouve, pour qu'on t'honore en novembre dernier. Comment t'as reçu cet honneur-là d'être intronisé au Panthéon des sports du Québec en très belle compagnie, parce qu'on en a des beaux athlètes au Québec, puis des athlètes qui ont fait de grandes choses.
Ouais, c'est un honneur, Mario, parce que pour moi, j'ai commencé à faire du sport, moi j'avais 5 ans, là. Puis le rêve que j'avais, moi, c'était pas de devenir un champion paralympien, là, c'était de devenir un joueur de hockey. Et puis ce rêve-là, justement, comme tu le sais, ce rêve-là, c'est éclaté, dans le fond, a éclaté lorsque j'ai eu un accident de hockey. Et je devais le reconstruire. Puis à partir du moment où ce que j'ai commencé à me réintéresser au sport, ben il y a eu justement la voie paralympique qui s'est ouverte. Puis d'être honoré, d'être intronisé au Panthéon des sports qui reconnaît tous les genres de sportifs, là, dans le fond, là, pas seulement les sportifs handicapés, mais tous les sportifs du Québec. Ben, c'est un grand, grand honneur. Personnellement, je le vois comme j'ai réalisé mon rêve, puis on le reconnaît. Puis au niveau plus sociétal, ça peut aider les gens justement à les inspirer puis à dire ben, regarde, même si t'as un accident, ben tu peux y arriver quand même. Ben c'est un autre, ça donne un sens à tout ça.
C'est le cas de le dire. La vie aurait pu te mettre KO, hein, Dean, au sens propre et figuré, puisque à l'âge de 17 ans, alors que tu participes à un match du camp d'entraînement des Cataractes de Shawinigan, je pense que c'est même le dernier match du camp, c'est un 25 août 1987, tu reçois un coup à la tête violent dans une escarmouche ou dans un début de bagarre, oui, dans un coin de patinoire qui change ta vie. Et je pense que quiconque était là, puis je le sais pour avoir connu puis avoir parlé à des gens qui étaient là, s'en souviennent encore parce que je pense qu'il y avait eu un son que tout le monde avait entendu à ce moment-là, le 25 août 1987, sur la glace.
Hein? Oui, ben dans le fond, t'as parfaitement raison. C'était un des derniers, matchs du camp d'entraînement. Puis on est un paquet de jeunes là, qui ça varie entre 16 ans puis 20 ans. Puis on veut tout faire le club. Puis là, on a les. Moi, je suis un vétéran. C'était ma deuxième saison avec les Cats. Puis t'as des recrues là-dedans qui, eux autres, veulent percer l'alignement. Alors, un des derniers matchs, puis la tension est au max là, parce que tout le monde veut protéger sa place. Fait que on commence la partie simulée, puis il y a un climat de violence assez incroyable. Il y avait des bagarres à gauche puis à droite. Puis un moment donné, justement, moi, je suis pris dans une bagarre là avec un gars qui voulait prendre ma place, dans le fond. Et puis, on en vient au coup. Je reçois un coup à la tête, un premier coup à la tête, puis mon casque décroche. Et lorsque mon casque s'est décroché, bien, j'ai essayé d'arrêter la bagarre en agrippant un peu le coude de mon adversaire, mais qui était un coéquipier, entre guillemets. Et j'ai passé à côté. Puis j'ai eu un autre coup de poing vrai à la tempe, à la même place. Et là, j'ai perdu connaissance et je suis tombé sur la tête. Et le son qu'on a entendu dans l'aréna, c'est quand ma tête a frappé la glace. J'avais plus de protection, donc c'est ma tête qui a vraiment frappé la glace. Et là, on a entendu les vertèbres cervicales qui ont éclaté. Les vertèbres C6 et C7 qui, une fois étendu sur la glace, moi, j'ai essayé une première fois de me relever. Ça n'a pas fonctionné. Une deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est là que je me suis dit, je suis dans le trouble, puis pas à peu près.
Et ça, tu le réalises très, très rapidement, là.
Je le savais tout de suite. Je le savais tout de suite que ça allait pas. Et, habituellement, à l'époque, là, les protocoles étaient pas très bien suivis non plus. On a mis un gant, là, en dessous de ma tête, là, comme on fait, là. Et puis ça n'a pas aidé ma colonne vertébrale. Après ça, ben, j'avais des joueurs, moi, qui étaient à gauche et à droite de moi. Fait que je regardais, j'étais tout le temps en train de tourner ma tête à gauche puis à droite, fait que je faisais encore plus de dommages à ma moelle épinière. Les infirmiers sont arrivés, on m'a amené à l'hôpital de Shawinigan, et ça n'a pas été long qu'on m'a retransféré d'un hôpital plus spécialisé là, à Trois-Rivières. Et le verdict est tombé.
Et le verdict était moelle épinière sectionnée, deux vertèbres brisées. Et donc, c'était quoi qui était le plus dur? C'est, je veux dire, l'ensemble de tout ça, c'est assommant, ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable juste d'y penser. Mais c'est de savoir que tu n'allais pas remarcher, j'imagine, qu'on t'annonce aussi à ce moment-là?
Oui, quand on t'annonce ça, la réaction, c'est de rejeter ça, de ne pas l'accepter, puis de dire, regarde, moi non, moi c'est Dean Bergeron, puis je vais réussir à remarcher, puis je vais déjouer les pronostics, si on veut. Au fur et à mesure, ben là, tu te rends compte que... Parce que tu fais des progrès au début, hein, parce que, veux pas, quand tu te casses un membre, ça enfle. Hein. Et moi, ben quand je me suis cassé le cou, ben ça s'est mis à enfler aussi. Et c'est venu compresser la moelle épinière, ce qui faisait en sorte que, après un certain temps, moi, je bougeais plus du tout. Là. J'étais paralysé de la tête aux pieds, mes membres supérieurs ne bougeaient pas. Et quand l'enflure s'est résorbée, ben là, j'ai commencé à regagner du mouvement dans mes mains. Fait que là, ça m'a donné espoir. Regarde, si je suis capable de recommencer tranquillement à bouger mes mains, ça va descendre tout ça, puis je vais m'en remettre à marcher. Mais à un moment donné, ça s'arrête, la progression s'arrête. Et là, ben, c'est des hauts et des bas. Il y a des moments où ce que tu es sur un high, tu penses que tout va bien aller, mais il y a des moments là vraiment down où ce que tu dis, pourquoi c'est moi? Ce qui était le plus dur, c'était ça, Mario. C'est le pourquoi.
Pourquoi, hein?
Pourquoi c'est moi? Tu regardes tous les joueurs qui sont passés dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là. Il y en a un qui est en fauteuil roulant, mais c'est moi. Puis pourquoi? Puis encore aujourd'hui, je suis pas capable de savoir pourquoi c'est moi. Puis à partir du moment où ce que... Ce pourquoi-là, j'ai réussi à le transformer en comment, en commençant à voir des possibilités, en côtoyant d'autres personnes en fauteuil. Ben là, j'ai vu justement que je pouvais continuer mon rêve d'athlète, que je pouvais continuer à faire des choses, dans, pas sur deux patins, mais avec un fauteuil de course.
Comment ça t'a pris de temps à faire le deuil du hockey? Est-ce que tu t'es coupé du monde du hockey? Parce que ça devait comme... Tu sais, c'était ton rêve, là, puis t'étais peut-être en voie de le réaliser, peut-être un jour de jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, est-ce qu'il y a un blocage qui se fait à ce moment-là?
Oui, il a fallu que je tourne la page, puis je dirais que quand, justement, j'étais dans mon lit d'hôpital, puis je voyais des matchs de hockey, ça me faisait tellement mal, là, ça me faisait vraiment, là, ça venait me pogner au fond. Après ça, j'ai vu des gens... Des coéquipiers, là, des Enrico Ciccone qui sont montés en haut, des gens qui sont allés partir, qui ont été joués en Europe, puis qui faisaient la belle vie. Et que là, je me disais, c'est non bien injuste, pourquoi moi? Et à partir du moment où ce que. C'est drôle, il y a une anecdote là-dedans, comme ça. J'ai commencé à faire de la course en fauteuil, je suis en Floride, je m'en vais à Los Angeles, je faisais un petit peu de compétition, je commençais à faire mes compétitions internationales. Un moment donné, il y a une gang de grands gars qui rentrent dans l'avion. Tu sais, en fauteuil, nous autres, on rentre tout le temps en premier. Tu sais, ils nous boardent en premier, puis après les gens embarquent. Fait que là, moi, je suis embarqué dans l'avion, puis là, je commence à voir passer des grands gars. C'est une équipe de quoi, ça? Un moment donné, je tombe face à face avec Enrico Ciccone. Puis là, je me suis dit, Colin, si c'est Chico qui est là, pourquoi c'est pas Chico qui est à ma place, puis moi, j'étais à la place de Chico? Mais ça, c'est des moments, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des hauts, c'est des bas. Puis, un moment donné, quand j'ai commencé à avoir du succès en course en fauteuil roulant, j'ai commencé à m'identifier comme un athlète paralympique. Là, ben, regarde, ça a été plus facile. Mais oui, j'ai coupé le monde du hockey, j'ai complètement coupé.
Et à quel moment, je sais pas si le mot espoir est juste ou est bon, mais à quel moment tu as le sentiment puis tu as envie là dans les jours, les semaines, puis je sais pas combien de temps ça a pris, les mois qui suivent l'accident, à quel moment tu as espoir de pouvoir faire autre chose de ta vie ou que tu as envie de te relever au sens figuré, évidemment?
Ben, il y avait deux choses. Moi, quand j'ai eu mon accident, puis j'étais sous mon lit d'hôpital, puis j'étais paralysé, j'ai dit à ma mère, maman, au moins, il me reste ma tête. Tu sais, j'aurais pu être un traumatisé crânien puis pu être capable là, de fonctionner au niveau de mon cerveau. Mais j'ai eu la chance, justement, même si je suis tombé sur la tête, j'ai pas eu d'anévrisme, j'ai pas eu rien là qui a fait en sorte que mon cerveau était plus fonctionnel. Donc, j'étais conscient que j'avais tout le temps été bon à l'école, j'avais tout le temps voulu, dans le fond, aligner les deux, là, le mm-hmm. sport et les études. Fait que j'avais cette police d'assurance-là, là, entre guillemets, qui me disait « je vais être capable de faire de quoi quand même parce que j'ai ma tête ». L'autre bout, le niveau sportif, ça, au début, moi, j'avais complètement mis une croix sur le sport. Dans ma tête, le sport, c'était le hockey. Puis Dean Bergeron qui joue pas au hockey, c'était pas d'autre chose. Fait que j'avais décidé justement de m'en aller à l'Université Laval, là, de poursuivre mes études, m'en aller à l'Université Laval en actuariat. Et c'est durant mon bac en actuariat que là, il y a un déclencheur qui s'est fait. Dans le fond, j'ai rencontré mon coach, qui était mon coach pendant 20 ans, Pierre Pomerleau. Et Pierre, il connaissait par réputation.
Parce il savait que d'où tu venais.
Il savait d'où ce que je venais. Puis Pierre était coach déjà de personnes en fauteuil roulant. Il coachait Chantal Petitclerc. Il coachait une équipe, puis c'est à Québec, là, qui faisait de la course en fauteuil roulant. Fait qu'il me dit, ça te tenterait-tu de faire ça? Tu sais, entre guillemets, là, t'as des grands bras, là, puis il me semble ça va bien, ça. Puis en plus, t'as la bonne couleur pour faire de l'athlétisme. Fait que, regarde, on porte ça. Fait que je me laisse tenter par l'invitation. Et ça, c'était en 91. Puis les gens qui s'entraînaient, dont Chantal, Petitclerc, ils se préparaient pour les Jeux de Barcelone. Fait que c'est là, vraiment, là, que mon rêve d'athlète a commencé, qui était éclaté en mille morceaux, là, a commencé à se refaire. Et là, je me disais, garde Colin, si Chantal Petitclerc va à Barcelone, moi aussi, je vais y aller. Puis là, je vais commencer à m'entraîner là-dessus. Fait que c'est parti comme ça. Malheureusement, on n'a pas eu le succès. J'ai pas eu le succès escompté la première fois parce que rendu aux sélections, justement, ça fait pas si longtemps que ça que je faisais de la course en fauteuil, mais à la sélection canadienne pour l'équipe canadienne, j'ai été retranché. Et Mario, c'était la première fois que je me faisais retrancher d'un club sportif.
C'est vrai.
Fait que un sport de carrosse de même, puis je me dis, Colin, tu te fais retrancher d'un club alors que tu étais rendu junior majeur puis tu voulais faire la Ligue nationale. Le premier camp d'entraînement de course en fauteuil roulant, tu te fais retrancher. Ça va pas bien. Fait que, mais ça a transformé mon rêve en ambition, je te dirais, Mario. Fait à partir de ce moment-là, c'est devenu sérieux. Puis on a fait un plan d'entraînement pour les 4 prochaines années. Puis après ça, ben, les succès ont commencé à rentrer.
Dean Bergeron est notre invité. Dean, nous sommes suspendus à tes lèvres. On veut en savoir davantage. On s'arrête le temps de quelques messages et on revient tout de suite pour reprendre exactement là où on est rendu.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
Nous sommes de retour avec notre invité aujourd'hui à Mario Langlois Rencontre. Nous recevons Dean Bergeron qui a été intronisé au Panthéon des sports du Québec en novembre dernier après une très belle carrière comme athlète paralympique. Lui dont la vie a été bouleversée à la suite d'un accident de hockey survenu en 1987. Parce que jusque-là, ben son rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Nous étions rendus juste avant la pause au moment où tu entres en contact avec celui qui allait devenir ton entraîneur, avec Chantal Petitclerc qui se prépare à prendre part à des Jeux olympiques. Et j'ai envie de te demander, Dean, est-ce que d'entrée, bon, premièrement, Pierre Pomerleau qui te lance la perche, je veux dire, hey, ça te tente d'essayer ça, c'est une chose. Puis d'entrer en contact, là, de voir la détermination et tout ce qui anime une dame, une grande femme comme Chantal Petitclerc, crois-tu que ça a eu un effet sur toi?
Ben c'est drôle parce que moi puis Chantal, on a eu des carrières parallèles. Dans le fond, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle faisait de la course en fauteuil quand moi je suis arrivé dans le portrait. Et puis, je pense qu'elle a commencé un an ou deux avant moi. Puis, à l'époque, c'était plus une collègue dans le sens que
c'était pas Chantal qu'on connaît aujourd'hui.
Exactement.
Là. Je comprends ce que tu veux dire. Elle était pas décorée là, de tout ce qu'elle pouvait gagner. Là.
Exactement. C'était la Chantal en devenir là, qui okay. Elle aussi avait un rêve et voulait faire de la course en fauteuil. Je te dirais, moi, le personnage sportif là, au niveau du monde en fauteuil, c'est André Vigé. Parce que André, je l'avais connu debout. Du temps que moi j'étais debout puis qu'il faisait ses marathons puis il arrivait justement au fil d'arrivée du marathon de Montréal côte à côte avec Mustapha Badid puis Philippe Coupry, deux Français en fauteuil roulant aussi, puis c'était tout le temps des batailles épiques entre les trois. Moi c'est les premières images que j'ai vues d'André Vigé qui m'avaient impressionné du temps que j'étais debout. Puis quand je suis devenu en fauteuil, ben je me suis dit, Colin, c'est possible là, de faire de quoi en fauteuil. Là, garde ce gars-là, là, André Vigé, Monsieur Vigé. Là,
c'est un homme inspirant, ça. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à quelques reprises. Puis j'imagine qu'une fois que tu as perdu l'usage de tes jambes, tu y as repensé, André Vigé. Hein?
Ah ben oui. Là, c'est tout le monde qui ont eu des accidents qui arrivent aussi. Parce que, tu sais, moi, il y a une personne, entre autres, là, qui est peu connu, là, mais qui m'a aidé, qui était mon parrain, entre guillemets, c'est Errol Payet. Là. Lui, il est venu me voir à l'hôpital. Il avait un handicap sensiblement pareil au mien. Et puis, c'est lui qui m'a fait découvrir que, un, je pourrais conduire ma voiture, que je pourrais travailler, que je pourrais avoir une femme, que je pourrais avoir une famille. Tu sais, c'est tout lui là, qui m'a donné justement cette nouvelle perspective-là, puis qui m'a aidé.
À quel moment, ça?
Ça, c'est en sortant du temps que je faisais ma réadaptation. Moi, j'ai fait un an de... On fait, dans le fond, quand on a un accident comme ça, il y a une période de soins aigus, où ce que là, ça passe par une opération, puis on essaie de te réchapper, tout ça. Et ensuite, une longue période de réadaptation, où ce que là, tu commences à réapprendre à vivre en fauteuil, comment s'habiller en fauteuil, comment te véhiculer en fauteuil, comment te bouger en fauteuil, comment tout faire des choses quotidiennes qu'on pense même pas quand on est debout, là, mais il faut réapprendre à faire ça en fauteuil. Et ce personnage-là, il y a eu toute l'équipe médicale, c'est sûr, mais Errol Payet, lui, c'était un vrai, là. Je pouvais m'associer à lui, là. Je pouvais me comparer à lui. Fait que c'était ma première figure marquante, là, du monde en fauteuil.
On a fait allusion à quelques reprises à cet incident qui a fait en sorte que dans ta vie, Dean, il y a un avant puis un après, là, cette date qui est marquée pour toi, le 25 août 1987. Il n'y a pas bien, bien des façons de te demander ça. Est-ce que tu en veux encore à celui qui t'a asséné le coup, qui t'a entraîné cette situation-là? Est-ce que tu en veux encore au hockey peut-être d'une façon plus large? Est-ce que tu as pardonné à ce gars-là, en quelque sorte? Je ne sais pas si ça se pardonne.
Mais j'ai puis je vais peut-être te surprendre, Mario, mais j'en ai jamais voulu à ce gars-là. Parce que quand on y pense, ça aurait pu être moi qui blesse quelqu'un j'aurais pu le blesser, le gars, comme il m'a blessé. Fait que il était dans un contexte comme moi j'étais dans un contexte, et malheureusement c'est moi qui est resté paralysé, mais ça aurait pu être lui aussi. Fait que ça aurait été un accident qui aurait été aussi malheureux, puis je me serais senti coupable de ça. Mais pour moi, ce qui était important là-dedans, puis si je voulais donner un sens à ça, c'était un peu de sensibiliser la ligue, de sensibiliser les coachs, de sensibiliser tout le monde qui gravite autour de ces jeunes-là sur le devoir qu'on a de les protéger. Puis, ces jeunes-là, ils ont 16, 17, 18 ans. Tu sais, quand tu disais tantôt, là, j'étais à l'aube de mes 50 ans, lorsque j'avais 17, 18 ans, je me croyais bien vieux, puis bien grand, puis bien fort, mais à quelque part... J'étais à la merci un peu de tout un contexte. Nous autres, les joueurs de hockey, on part de chez nous, on a 15 ans, 16 ans, on s'en va dans des familles d'hébergement. On gravite dans un monde qui est complètement différent que le monde normal, là, dans mm-hmm. le sens qu'on est en équipe à chaque jour, l'équipe est ensemble, on est une gang de jeunes ensemble, puis il y a des figures qu'on dirait parentales qui sont là, qui sont nos coachs, qui sont notre gérant, qui sont la ligue en quelque sorte. Fait que pour moi, c'était de dire à tout ce monde-là que on a un devoir. On a un devoir comme adulte de protéger nos enfants là-dedans.
Est-ce que tu constates, je sais pas jusqu'à quel point tu t'es remis le nez dans les arénas après t'être coupé puis bloqué un peu du hockey, mais d'entendre parler, si tu ne le constates pas sur place, de voir que la violence tranquillement, peut-être trop tranquillement, mais il y en a moins dans les circuits supérieurs. Par exemple, dans la Ligue nationale de hockey, je ne sais pas qu'il n'y en a plus. Il y en a moins. Dans le junior, je pense qu'il n'y a pas de comparaison avec les années 80, les années 70. C'est un zoo. Et dans les rangs mineurs également. Est-ce que, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce constat-là. Est-ce que tu t'en réjouis dans une certaine mesure?
Oui, oui. Totalement, Mario. Puis, j'adore le hockey encore. Je ne suis pas comme je le suivais dans le temps parce que c'est pas les, j'ai pas les mêmes ambitions non plus. Puis tout ça. Sauf que le hockey, pour moi, va tout le temps rester mon sport, dans le sens que pour moi le feeling de patiner puis d'arracher la glace quand tu patines, là, c'est un feeling que j'ai encore puis qui est très très vivant dedans de moi. Le feeling de faire un lancer frappé, de pogner le poteau, puis dans le son que ça fait, regarde, ça me fait triper, puis ça me fait, tu sais, je trippe encore là-dessus. Et oui, ce que je salue, moi, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était un long, long processus. Mais il y a des résultats qui sortent de là. Puis tranquillement, il fallait amener aussi la population là-dedans à voir qu'il n'y a pas seulement des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui fait que c'est un beau spectacle. De voir des talents, d'être capable de voir que justement, d'avoir un sport que c'est intense, mais qu'il n'y a pas nécessairement de bagarres, on peut avoir une super belle partie. La preuve, c'est tu t'en vas dans une série, il n'y en a plus de bagarres. Mm-hmm. Puis pourtant, le jeu est encore pas mal plus intense, puis il est encore pas mal plus intéressant. Fait que pour moi, c'était... Je pense que je vais peut-être contribuer un petit peu, un petit pourcentage là, lorsqu'on a fait justement le tour, moi puis Enrico Ciccone, là, des DG et des
de sensibiliser la Ligue, les gens, les intervenants. Là.
Exactement. Mais pour moi, le hockey, ça va toujours rester un super sport. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pas commencé à faire de la luge, du hockey-luge.
Hockey-luge, ouais.
Parce que pour moi, c'est...
C'est drôle que t'en parles, j'y pensais pendant que tu parlais, mais je t'écoute.
Ouais, parce que pour moi, je pouvais pas recréer les sensations que j'avais eues quand j'étais debout. Puis ça, c'est tellement précieux que je veux pas effacer ça.
C'est tellement fascinant tout ce récit de ton parcours de vie. Dean Bergeron, qui est notre invité aujourd'hui, on doit s'arrêter. Permets-moi, Dean, quelques instants encore pour honorer nos commanditaires et nous poursuivons l'entretien dans un petit moment.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Voilà, déjà de retour, notre invité aujourd'hui, je vous le rappelle, Dean Bergeron, des médailles. Wow, 11 médailles paralympiques, Atlanta, Sydney, Athènes, Pékin. Puis on revient à ce que tu nous racontais tout à l'heure, au moment où tu te fais retrancher de l'équipe de course en fauteuil roulant. Quelque part, ça a été comme un défi en même temps que tu as été présenté, puis tu l'as relevé de brillante façon par la suite. Raconte-nous, Dean, la suite des choses après que tu te fais retrancher, puis là, ben toi, tu décides de te retrousser les manches.
Ben, c'était tough. Honnêtement, là, c'était tough parce que, c'est ça, tu sais, je me disais, écoute, c'est un sport de carrosse de même, je peux pas croire que tu te fais retrancher d'un club de même. Fait que, pour moi, c'était un reality check que c'est pas parce que t'as été junior, t'as été joueur de hockey junior majeur, puis que, dans le fond, t'es à 6 pieds 2, puis que t'as des bras t'as le physique pour faire ce sport-là, que ça va être facile. C'est des athlètes qui s'entraînent, c'est des gens qui sont compétitifs, c'est des gens qui prennent ça au sérieux. Fait que j'ai eu, moi aussi, à prendre ça au sérieux. Fait que là, quand on est revenu de cette sélection-là, de cette non-sélection-là, ben moi puis mon coach, là, on a commencé à structurer des entraînements qui étaient beaucoup plus sérieux. Et on s'est aligné sur 4 ans avec un plan de match, avec des on a commencé à faire des compétitions qui étaient internationales, les championnats du monde et tout ça. Et là, ben, le succès a commencé. Et le point culminant là, de mon début de carrière, c'était Atlanta 96 pour les Jeux paralympiques, où ce que je suis revenu de là avec 5 médailles. Et là, j'étais positionné. Là, j'avais vraiment ma place là au niveau de l'équipe canadienne. Ça, c'était réglé. Maintenant, j'étais en train de vraiment, vraiment creuser ma place là, dans ma catégorie chez les quadriplégiques en course en fauteuil roulant.
Je ne sais pas si les premières médailles sont les plus satisfaisantes. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, cette première Olympiade et la récolte de ces 5 médailles comme accomplissement personnel, Dean?
C'est drôle que tu poses cette question-là, Mario, parce que chacun des Jeux ont chacun leur histoire. Là. Atlanta, Athènes, Sydney, Pékin, ils ont tous chacun une histoire. Et Atlanta... Dans le fond, c'est comment je le résumerais, là, les Jeux, de la façon que je l'ai vécu à Atlanta, c'est la jeunesse qui réussit à se prouver, puis que là, qui se dit qu'il est meilleur, puis qui va être le premier au monde. Après ça, il y a eu les Jeux de Sydney. Les Jeux de Sydney qui étaient, ça devrait être facile, parce que Atlanta, ça a tellement bien été à Atlanta que ça devrait être facile. Et après ça, il y a eu les Jeux d'Athènes, où ce que là, j'avais perdu mes repères. J'avais changé de commanditaire qui faisait mon fauteuil de course. J'avais changé un paquet de choses. Et le sport avait évolué beaucoup. Ça oui. prenait maintenant pas seulement un entraîneur, ça prenait un préparateur physique, ça prenait un psychologue et tout ça. Et moi, je pensais que je pouvais faire ça tout seul de mon côté. Donc, il y a eu un wake-up call bien gros à Athènes avec une médaille. Et après ça, je me suis dit, ben, je me redonne un coup pour 4 ans. Avec les Jeux de Pékin, et ça, c'est mes plus beaux Jeux, c'est mes plus belles médailles. Parce que là, à Pékin, j'avais la maturité. Comme athlète, j'avais la maturité. Je savais que c'était mes derniers. Puis je me suis dit, je vais savourer chacune des médailles. Fait que les autres Jeux, je les ai survolés à quelque part parce que j'étais dans mon... Je les ai pas vécus comme j'ai vécu Pékin. Pékin, c'était une expérience vraiment extraordinaire.
Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, comment dirais-je, t'es plus assumé dans ta réalité d'une certaine façon?
Ouais, parce que je l'ai travaillé, Pékin, dans l'optique que j'étais privilégié de pouvoir vivre ces Jeux-là. Je savais que c'était mes derniers Jeux. En sortant d'Athènes, tout de suite, j'ai changé de commanditaire de fauteuil et j'ai remis, dans le fond, une équipe en place pour pouvoir justement être là, pour être prêt à Pékin. Et quand on est arrivé à Pékin, c'est drôle parce que à Pékin, on nous avait dit hey, ça va être super pollué, ça va vous prendre des masques justement là, pour la contre la pollution. Ouais. Restez dans le village parce que vous allez vous faire empoisonner. Puis, tu sais, on connaissait pas les Chinois. Puis les Chinois, dans le fond, ils viennent pas compétitionner là, en course en fauteuil d'ailleurs. Ils viennent pas compétitionner avec nous autres. Fait qu'on les connaît pas. On sait pas comment ils sont, on sait pas comment ils réagissent. Mm-hmm. Et quand on est atterri là-bas, je vais tout le temps me rappeler, on est atterri à Pékin. Il y avait un beau ciel bleu, là. C'était, regarde, il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Je ne sais pas comment ils avaient fait pour les tasser, mais regarde, c'était super beau. Puis, les premiers contacts que j'ai eus avec les Chinois, c'est, j'ai rencontré une petite famille. Il était à peu près une petite famille. C'est le cas, mais pas vraiment, c'est un, entre guillemets, petite, là, parce qu'il devait être à peu près 6-7, là. Puis là, un papa, il m'a mis son petit enfant là, de 3-4 ans sur les genoux, puis il voulait prendre une photo. Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas énormément de noir là-bas, là, mais il met le petit chinois sur les genoux, prend une photo, et puis là, ça a comme fait un contact de dire, ben, Colin, c'est drôle, hein? Autant on se disait, ben, ça va être dur là-bas, parce qu'ils vont, au contraire, les gens étaient accueillants, les gens étaient présents, là. Puis moi, dans le fond, j'étais prêt aussi. Fait que je me sentais prêt pour ces Jeux-là. Je savais que c'était mes derniers, mais j'étais complètement prêt.
Dean, quand tu fais la rétrospective de ta vie, pas en entrevue, mais quand tu es seul avec toi, là, c'est une réussite ta vie. Et t'arrives-tu de te demander ce qu'elle aurait été si tu n'avais pas eu cet accident-là?
Je dirais, Mario, je peux pas être content d'avoir eu cet accident-là.
Ben
tu me donnerais mes jambes demain matin. C'est sûr que, garde, j'y prendrais, là, puis je serais prêt à payer pas mal là, pour tes données. Mais est-ce que... Je pense que ce qu'on peut retenir des épreuves, c'est à partir du moment où que tu vis une épreuve, puis que tu te dis, puis que tu es capable de comprendre, pas pourquoi elle est arrivée, mais tu es capable de comprendre comment faire pour pas retomber dans le panneau. Tu sais, moi, j'ai un principe de vie qui dit l'épreuve va revenir tant que tu l'auras pas réglée. Dans le sens que si tu...
Il faut que tu passes à d'autres choses.
Il faut que tu passes à d'autres choses. Il faut que tu apprennes de ça. Puis, pour moi, quand j'ai eu cet accident-là, une leçon que j'ai retenue de ça, c'était de me dire, regardez, ta vie, là, c'est toi qui vas l'amener, puis c'est pas personne d'autre là, qui va avoir le contrôle sur ta vie. Parce que, quelque part, dans ma tête, il restait ma tête, il me restait quand même la moitié de mon corps là, qui était valide. Fait que c'est sûr que je vais le prendre, puis je vais vivre chacun des moments. Puis, je dirais, le fauteuil, qu'est-ce qu'il vient apporter, là? Il vient apporter des moments de il vient t'apporter des moments, je dirais, d'un petit peu de plénitude. C'est sans faire trop de la philosophie là-dedans, là.
Non,
mais
je
juste te donner
intérêt.
Un exemple. Ouais. Quand j'ai commencé à faire des petites victoires, là, j'ai fait de la course en fauteuil roulant, mais la première fois que j'étais sur le Mont-Saint-Anne à Québec en monoski, en ski alpin, c'était la plus belle journée de ski que j'aurais jamais pu vivre. Là. Quand je pars en vélo de montagne, parce que maintenant, il y a plein d'équipements là, pour les personnes en fauteuil, là, pour justement profiter de la vie. Là. J'ai un vélo de montagne, je m'en vais en vélo de montagne, je suis dans le bois. On dirait que tous mes sens là, sont x10. Là. Regarde,
oui.
je trippe. Mes yeux ne sont pas assez grands pour tout voir, mon nez n'est pas assez gros pour tout sentir. Fait que la même affaire, là, t'sais, un moment donné, il m'a pogné un trip, je dis, ah ben regarde, quand ils ont sorti les fameux Spider, là, les petites motos, si on veut, là, à trois roues de Bombardier, là, puis je dis, ah, regarde, ça c'est un défi, puis il me semble que ça serait le fun, t'sais, ça serait le fun que je passe à travers ça, ben, j'ai eu plein de difficultés, là. Il a fallu que je reprenne un cours de moto, il a fallu que je fasse plein d'adapter mes affaires, tout ça. Mais la première fois où que je suis parti en Spider, puis que je vivais ça, là. C'était x10 là, comme sensation. Puis, c'est un peu ça le message, je pense, que je devais retenir de cette vie-là. Quand je jouais au hockey, là, j'étais pas capable d'en profiter. J'étais pas capable de vivre pleinement la chance que j'avais de jouer avec les cataractes ou de jouer avec les cantonniers quand j'étais midget 3. C'était tout le temps de dire non, 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 faut que. Mais à partir du moment où tu as un accident comme ça, où que tu redescends là, vraiment sur le plancher des vaches, là, parce que là, tout devient difficile, ben, chaque petit succès est multiplié puis t'amène vers d'autres succès. Fait que c'était ça, moi, la reconstruction, là, c'était de chacune des étapes de m'émerveiller à quel point, justement, on a des potentiels puis on peut se réaliser, peu importe ce qui arrive.
Je sais que tu as prononcé beaucoup de conférences à travers le Québec, Dean, et je me demandais, est-ce que La vie t'a mis parfois en face de gens qui ont vécu quelque chose de semblable à ce que t'as vécu, mais qui, eux, là, encaissent le choc et pensent que peut-être ont de la misère à voir des jours meilleurs. Je sais pas si ça t'est arrivé.
Oui. Oh oui, oh oui. Puis des gens debout comme des gens qui sont pas debout là.
Oui, oui.
C'est tu sais, on peut pas juger l'épreuve que l'autre vit là. On peut pas juger si c'est grave ou si c'est pas grave là. Et pour moi,
as-tu senti que tu les avais inspirés ou essaies-tu de leur donner le petit déclic qui pourrait leur permettre de?
Pour moi, quand je fais une conférence, c'est je donne. Puis si tu veux prendre un morceau qui de la conférence qui t'interpelle, prends-le, je te le donne. Si c'est un, puis moi, il y a des dans les conférences que je donne des fois, il y a des messages clés d'être capable de transformer nos pourquoi en comment. Tu sais, quand t'as une épreuve, puis pourquoi moi, j'ai un cancer, pourquoi moi, puis pourquoi. Mais à partir du moment où tu le transformes en comment, ben là, tu commences à avoir des possibilités. Être capable de vaincre ses peurs. En fauteuil, moi, là, j'ai beau être à 6 pieds 2, là, au début, là, j'avais peur. Là, j'avais peur de me promener en fauteuil. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Fait que d'être capable de vaincre ses peurs. D'être capable aussi d'être fier oui, de ce qu'on est.
Oui.
Et souvent, nous autres, c'est peut-être dans notre petit Québécois là, qui dit, ben regarde, moi, je veux pas être fierpette, puis si j'ai un succès, je vais le mettre en dessous de la couverte pour pas que personne le voie. Là. Mais à partir du moment où tu es fier, puis ça, c'est drôle parce qu'à Pékin, lorsque j'ai gagné ma médaille d'or aux 200 mètres, je l'ai mis dans ma poche tout de suite. Tu sais, dans le fond, il y a 3 étapes, là, quand, je vais te résumer ça vite, si on a le temps, Mario, là.
Ben oui, on a le temps.
Dans le fond, tu fais ta course, tu gagnes ta course, puis il y a 3 étapes qui suivent. Fait que là, on te donne ta médaille. Après ça, ben, t'emmènes sur le podium, là, t'as l'hymne national qui commence à jouer au Canada et tout ça, puis c'est super, là, puis petite larme, puis tout, parce que je sais que c'est peut-être la dernière que je vais gagner, là. Mais la musique arrête, je mets ça dans mes poches. Là, après ça, il y a une petite conférence de presse. Puis après ça, on s'en va au test antidopage. Dans le fond, là, pour savoir si je pars avec ma médaille ou bien si je laisse dans le pot. Là. Et puis, pendant que je suis en attente, je suis dans cette salle-là, je décide d'appeler ma blonde à l'époque, qui était à Saint-Augustin, qui était restée à Québec. Puis je lui dis, hey, sais-tu quoi? C'est dans la poche, là, je l'ai ma médaille. Puis là, il est 8 heures le soir, fait qu'ici à Québec, il est 8 heures du matin. Elle dit, je sais pas, là, j'essaye de suivre ça sur Internet, c'est dur. Ça. J'ai dit, garde, crois-moi, là, je suis pas mal, j'y touche, là, je l'ai la médaille. Elle me dit, comment tu te sens? J'ai dit, je me sens tellement soulagé, là, tu peux pas savoir, parce que, ouais, il me semble que là, j'ai un gros poids, là, qui vient de sortir, là. Puis là, j'ai plus rien, là, entre Saint-Augustin et Pékin, là, il n'y a plus de contact, là. J'ai dit, allô, t'es-tu encore là? Elle dit, je suis surpris parce que tu me dis. Je dis, comment ça? Elle dit, Dean, ça fait 20 ans que tu fais de la course en fauteuil, que tu t'uses les jointures, que tu fais des sacrifices que personne ne fait, et tu atteins ce que tu veux atteindre, que tu cours après depuis des années, et tu me dis que tu es soulagé. J'aurais pensé que tu serais fier. Et là, ça me fessait, là, Mario, ça, cette affaire-là. Là. Puis là, j'ai eu la fierté dans ma tête là, qui n'arrêtait pas. Puis j'ai ressorti ma médaille. J'allais me la remettre dans le cou pour faire mon test antidopage. Ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait que je sorte ça pour faire mon test. Là. Mais la médaille, c'est un outil pour exprimer ta fierté. Puis à partir du moment où c'est bien fait, que c'est fait en toute humilité, cette fierté-là va t'inspirer d'autres. Tu arrives au village olympique après ça avec ta médaille, les gens veulent y toucher et ils se disent, regarde, demain matin, moi, je vais aller en chercher une moi aussi. Puis, c'est un peu ça, la vie, là, d'être capable d'être fier de ses succès, de ses petits succès, parce que c'est eux autres là, qui t'amènent vers des plus gros succès. T'sais. On a tous chacun nos petits défis, là, mais à partir du moment où tu fais un petit peu de progrès et que tu es fier de ça, ben, ça va t'amener vers des plus gros défis.
Dean, on doit s'arrêter le temps d'une dernière pause et on revient pour la suite de cet entretien passionnant, très enrichissant. On revient dans quelques instants.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, Rencontre.
Nous voilà, Mario Langlois rencontre, et cette semaine, bien, nous rencontrons Dean Bergeron, originaire de l'Abbé, hein, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, maintenant dans la région de Québec. Il a joué au hockey, devenu à la suite d'un accident survenu en 1987, un athlète en fauteuil roulant, un athlète décoré de 11 médailles. Et il y a quelque chose que tu n'avais pas peut-être eu encore, il y a quelque chose que tu n'avais pas vécu jusque-là, malgré tous ces succès, malgré la façon dont tu as tout reviré de bord pour attaquer la vie, pour mordre dans la vie, c'est la paternité, Dean.
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça représentait? À quel moment c'est survenu? Est-ce que tu savais que tu pourrais avoir des enfants? Puis jusqu'à quel point ça a été une joie pour toi?
C'était, pour moi, quand j'ai fini mes Jeux paralympiques, là, quand j'ai fini ma carrière de coureur en fauteuil roulant en 2008, après Pékin, là, quand je suis sorti du stade olympique là-bas, là, c'était sûr que, regarde, pour moi, je tournais une page. De la même façon que Il y a une page au niveau du hockey qui s'est tournée, bien involontairement. Ben, il y a eu une page aussi au niveau du sport paralympique qui s'est tournée. Puis ça se faisait en 2008 à Pékin. Puis là, je me suis dit, ben, regarde, il y a deux pans de mur là, de ma vie que je veux développer encore. C'est d'un côté ma carrière professionnelle, parce que oui, j'étais actuaire, mais je voulais faire de la gestion, puis je voulais grandir là-dedans. Et l'autre, ben, c'était ma famille. Est-ce que je peux devenir un papa? Est-ce que je peux être... Puis ça m'a tout le temps fait peur un peu. J'ai jamais poussé fort là-dedans parce que, tu sais, la littérature le dit, là, quand t'es paraplégique, il y a à peu près un paraplégique sur deux qui peut avoir des enfants. On sait pas encore pourquoi. La science sait pas encore trop pourquoi, mais c'est plus difficile d'avoir des enfants quand t'es paraplégique ou quadraplégique. Donc, je rencontre Sophia qui est devenue ma femme en 2012. Et puis là, ben, on commence à parler de ça. Et ça s'est fait comme par enchantement, je dirais. Ça a été super bien, super facile. Et la petite Lia Rose est arrivée là en 2014. Et puis, je dirais que ma vie là a pris vraiment là tout son sens, parce que là j'arrivais avec le bagage de mon épreuve, le bagage de ma carrière en fauteuil roulant, le bagage aussi de ma carrière professionnelle, et j'arrivais dans une étape de ma vie, j'avais commencé à donner des conférences aussi, une étape de ma vie où ce que c'était le sens, c'était de redonner. Qu'est-ce que je peux redonner pour que les gens justement puissent prendre un petit peu de vécu de Bergeron, là, puis de ramener ça dans sa vie. Et là, ben, regarde, c'est pour redonner, là, quand t'as un petit bout de 3 ans, là, qui parle, puis qui parle, puis qui parle, là, c'est facile.
Je serais bien curieux d'avoir été une mouche ou un oiseau pour voir, puis je sais pas de quelle façon vous y êtes allé, mais est-ce que ta blonde te surprend, ton épouse maintenant, Sophia, te surprend en disant le test de grossesse, puis je suis un peu voyeur, là, mais ça devait être un moment, j'imagine, assez spécial.
Ah, c'était un moment vraiment spécial, puis sans trop rentrer dans les détails, dans le fond. Justement, ma blonde est... Elle voulait pas me le dire que justement là, qu'elle était en retard. Fait que on est allé acheter le test de grossesse comme tel. Puis là, ben, on l'a mis en arrière de nous autres. Puis on a attendu le temps qu'il fallait. Puis quand on s'est retourné de bord, puis qu'on a vu que c'était positif, là, on s'est mis à pleurer les deux, c'est sûr. Et pour moi, ben, c'était une réponse à une question que j'osais pas me poser parce qu'elle me faisait peur. Puis elle me faisait très peur. Et lorsque Lia Rose est arrivée, ben c'était un des plus beaux moments de ma vie, d'avoir cette petite main là qui t'accroche là, puis qui te dit tu vas être là, hein, papa, là, entre guillemets, là. Puis là, ben là, c'est toute la beauté d'être papa, puis d'avoir une famille qui est heureuse, puis qui est belle aussi, là. Mes deux amours sont pas mal beaux.
Ah, c'est tellement touchant d'entendre ça, et quelque part, j'imagine que le sentiment de sérénité. Tu parlais de plénitude tout à l'heure, tu sais, ça vient boucler la boucle, et peu importe au-delà de ta condition, même pour quelqu'un qui aurait voulu, puis pour toutes sortes d'autres raisons, rencontrer ta partenaire, le timing de la vie, tout ça, peut-être quelque chose qui était sur le point de t'échapper, de vivre la paternité, là, on peut dire que ça boucle la boucle, on peut dire que c'est une expérience de vie pas mal complète, Dean, hein?
Oh oui. Puis honnêtement, tu te poses tout le temps des questions, à dire, ben, regarde, moi j'ai fait, puis les athlètes individuels, là, les athlètes en général sont assez... C'est égocentrique, là, parce que là, c'est ma course, puis c'est tout mon monde qui est alentour. Puis là, je me disais, mané, je vais-tu être bon pour être un bon papa, moi, là-dedans, là, je vais-tu être capable de redonner et tout ça? Puis, il faut faire confiance en nature là-dedans, parce que
je dirais
que le don, là, il est inconditionnel. Puis, j'ai hâte de voir comment qu'elle va grandir, la petite, là, mais je te dirais qu'avec la maman, puis avec la petite fille, là, en toute humilité, là, je pense qu'on forme une super belle famille.
L'image du bonheur pour toi, Dean Bergeron, après tout ce que tu as vécu dans ta vie, on vient de passer une heure magnifique à t'entendre nous le raconter, là, ça rime à quoi le bonheur pour toi?
Ah, c'est des petits moments. Je dirais, moi, l'essence de la vie, là, on la retrouve, nous autres, justement, là, quand on est les trois, puis on sent que tout va bien, puis qu'on s'en va, ne serait-ce que d'aller prendre une marche, d'être capable d'avoir une bonne bouffe au restaurant avec des amis qui sont des bons amis qui sont avec nous autres. Plus je grandis là-dedans, plus je me dis que les vrais bonheurs, là, c'est ceux qu'on vit, là, qu'on peut vivre au quotidien, puis qu'on peut, dans le fond, qu'on peut partager avec nos proches. Puis moi, la vie, honnêtement, Mario, la vie, elle me comblait, là. Oui, il y a eu cette bad luck-là. Puis, oui, j'aurais pu prendre une trail en disant, ben, regarde, la vie est injuste, puis a fait en sorte que j'ai pas pu réaliser mon rêve, puis c'est à cause de la vie que je réalise pas mon rêve. Mais ça marche pas de même. Dans le fond, c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu vis quelque chose de difficile, comment est-ce que je peux faire pour transformer ça en victoire? Et quand tu arrives à transformer ça en victoire, ben, les autres obstacles, ben, t'as déjà le minding pour le transformer en victoire. Fait que, si j'ai un message à dire là-dedans, là, c'est jamais de se laisser abattre. Puis c'est comme dans une course, la vie, il faut que tu pousses jusqu'au bout. Tu peux pas lâcher parce que la leçon, la victoire est l'autre bord de la ligne. Là.
Dean, j'ai juste une chose à te dire. Merci. Merci en lettres majuscules. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et tu le disais tout à l'heure, j'allais dire juste merci, mais tu sais, tu commences à me connaître. J'ai toujours un petit quelque chose de plus, finalement. Vous en prendrez ce que vous voulez de ce que j'ai à offrir, mais je pense qu'on va en prendre des gros morceaux. Je pense qu'on va prendre le morceau complet. Merci beaucoup, Dean.
Merci, Mario. C'est super gentil de m'avoir invité. Puis salutations à tous tes auditeurs.
Au plaisir et bonne suite des choses.
Merci
beaucoup. Notre invité était Dean Bergeron. J'espère que vous avez passé de bons moments. On se donne rendez-vous le week-end prochain. Et entre-temps, bien sûr, ne manquez pas nos rendez-vous quotidiens du lundi au vendredi aux amateurs de sport dès 18h30 en semaine. Merci.